et à demain. Bonne journée.
Le journal de l'économie avec François Geffrier.
6h48, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres. Les entreprises se préparent à s'adapter au congé de naissance. Les futurs jeunes papas, notamment, vont s'absenter plus longtemps qu'aujourd'hui. L'arme économique pour faire pression sur Moscou. Les États-Unis s'en prennent aux banques russes. Et puis Futuroscopie du fou, Astérix, Vulcania et bien sûr Disneyland. C'est leur saison. On verra comment se portent les parcs d'attractions. On va oublier le terme de congé parental et retenir le congé de naissance. Emmanuel Macron a détaillé au magazine Elle ce nouveau type de congé pour les jeunes parents. Top départ fin 2025. La mère comme le père pourront partir pendant 3 mois tout en continuant à toucher 50% de leur salaire dans la limite de 1900 euros par mois. C'est à la fois nettement mieux indemnisé que le congé parental actuel, mais aussi plus court. Alors comment les entreprises voient arriver cette petite révolution? Zoé Pallier a enquêté.
Un nouveau congé, moins long mais mieux indemnisé, c'est un bon outil et on saura s'adapter, indique Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines.
L'important, c'est qu'au moment où le salarié informe qu'il va prendre son congé de naissance, qu'il nous donne également la date de fin, de manière à ce qu'on puisse mieux programmer. Parce que quelquefois, avec le congé parental, les gens le renouvelaient, donc c'est difficile d'avoir la date de fin. Donc je pense que si on arrive à avoir la date de début, ça c'est assez facile, et la date de fin, ça sera assez aisé à organiser dans l'entreprise.
Cette nouvelle formule séduira sans doute plus de salariés, car aujourd'hui le dispositif reste marginal et surtout très genré, précise Catherine Bonneville-Moraski, spécialiste de la mixité en entreprise.
14% des mères prennent le congé parental et c'est un peu moins de 1% des pères. La mauvaise rémunération, puisqu'on est à 428 euros par mois, fait que c'est le plus bas salaire des deux qui s'arrête. Et dans les foyers, c'est quand même en grande majorité celui des femmes.
Calculer l'indemnité en fonction du salaire et non plus par forfait, pourrait donc réduire ce biais et à terme les inégalités salariales.
Le décrochage des carrières des femmes cadres et des salaires se fait au congé maternité. Mais si on se rend compte que les hommes, eux aussi, peuvent être absents, ce frein, il va se gommer.
Mais l'Union nationale des associations familiales a sondé les futurs pères. Pour qu'une majorité d'entre eux prennent ce nouveau congé de naissance, l'indemnité ne doit pas représenter 50%, mais 75% de leur salaire.
Zoé Pallier, plus de 2 ans de guerre en Ukraine et toujours plus de sanctions économiques. Jusqu'ici, elles n'ont pas fait plier la Russie, loin de là. Mais l'Europe, comme les États-Unis, continue de monter en intensité. Le Trésor américain est désormais doté d'un pouvoir de sanction contre les banques suspectées de soutenir l'industrie militaire russe via les produits qui ont un double usage, civil et militaire. Éric Kioch.
Contourner les contournements de sanctions, c'est la stratégie américaine. En résumé, toute banque qui souhaite continuer à échanger en dollars américains devra montrer patte blanche. Si elle est impliquée de près ou de loin dans une transaction avec une entreprise sous sanction, elle risquera une amende, explique l'économiste Renaud Foucard.
Pour les banques, elles doivent pouvoir prouver qu'elles sont certaines que les gens avec qui font commerce ne facilitent pas ce type de transaction. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très puissant.
Un système qui a fait ses preuves contre l'Iran, le Venezuela, mais aussi Cuba, où la Société Générale avait écopé en 2018 de plus de $1 milliard d'amende pour ne pas avoir respecté ces règles. Mais au-delà de la Russie, Washington vise aussi la Chine, accusée de fournir Moscou en produits à double usage civil et militaire.
Vu la pression qu'il y a sur l'économie chinoise, beaucoup de banques chinoises ont vu comme étant une espèce de bouée de sauvetage la possibilité de récupérer cet argent russe. Et le but de ces sanctions, c'est de rendre ça tellement cher qu'ils ne le fassent plus.
Il s'agit là de resserrer l'étau financier autour de la Russie dans un moment où États-Unis comme Europe ont débloqué de nouvelles aides pour l'Ukraine, avance Renaud Foucard.
Il y a vraiment une espèce de sursaut probablement en bonne partie lié à la situation militaire là-bas et qui est de dire là maintenant on va passer à un niveau supérieur, niveau sanctions.
Et cela intervient aussi au moment où les Européens ont validé l'utilisation des avoirs russes gelés en faveur de Kiev.
Éric Kioch, la bataille du train. Je vous parlais hier d'Alstom qui commence à rassurer les marchés avec l'annonce de son augmentation de capital. Mais ce qui inquiète son patron Henri Poupart-Lafarge, c'est l'émergence très rapide du groupe chinois CRRC, déjà numéro 1 mondial et qui s'implante à grande vitesse, si j'ose dire, aux États-Unis et en Europe. Céline Cajolis nous présente ce conglomérat chinois du ferroviaire.
Les ambitions sont sans limite pour le premier producteur mondial de matériel roulant. Il répond à des appels d'offres partout dans le monde avec une méthode bien rodée, proposer des prix jusqu'à 30% moins chers que ses concurrents et installer dans les pays où il remporte des contrats des usines d'assemblage pour le matériel fabriqué en Chine. En 2019, le groupe contrôlé par l'État chinois a même racheté un fabricant allemand de locomotives au moment où la Commission européenne mettait son veto à la fusion entre Alstom et Siemens au motif qu'il n'y avait pas de danger de voir arriver un concurrent non européen. En février dernier, la commission, qui depuis a changé, a ouvert une enquête pour subvention faussant le marché intérieur au moment où le groupe chinois avait participé à un appel d'offres en Bulgarie. Pour éteindre l'enquête, le groupe a finalement renoncé à concourir. Il n'en reste pas moins que les contrats sont de plus en plus nombreux en Turquie ou en Inde, et même pour les métros aux États-Unis, à Boston et Chicago. Mais il y a aussi de plus en plus de suspicions. Ainsi, pour son appel d'offres, le métro de Washington a revu ses exigences à la hausse, notamment concernant la cybersécurité, mettant ainsi hors course le chinois. Certains pays ont aussi annulé des commandes, comme la République tchèque. En France, le groupe a racheté en 2018 une usine dans les Ardennes, spécialisée dans la fabrication de bus électriques.
Céline Cajoulis. Un nouveau record attendu sur le marché de la pub sur les réseaux sociaux, 250 milliards de dollars dans le monde cette année. Ce qui est spectaculaire, c'est l'an prochain. Cette étude de Wark Media qui promet au groupe Meta, Facebook, WhatsApp, Instagram, de rassembler à lui tout seul plus de revenus publicitaires que toute la télé dans le monde. Nicolas Godemet, associé chez OnePoint, pointe les questions lourdes que cela pose.
La première, c'est une concentration des investissements publicitaires aux mains d'acteurs qui ne sont pas en eux-mêmes créateurs de contenu. Donc, pour tous les médias qui, eux, sont producteurs de contenu, d'informations, qui peuvent être utiles d'un point de vue social ou démocratique, c'est un environnement plus compliqué. Et puis, plus généralement, le modèle économique des réseaux sociaux est fondé sur de l'engagement. Et l'engagement est porté par des algorithmes d'intelligence artificielle qui favorisent les contenus qui génèrent le plus de clics. Et malheureusement, ceux qui génèrent le plus de clics, c'est souvent les contenus les plus clivants et donc parfois haineux, avec tous les risques possibles en termes de fake news, désinformation, montée des extrêmes, populisme ou harcèlement.
Les marchés financiers tous dans le vert, que ce soit hier soir à Wall Street ou ce matin à Tokyo, le Nikkei progresse de 0,37%. L'euro est à 1,0775$. Il est 6h55. Avec les beaux jours et les ponts du mois de mai, revient la saison des parcs d'attractions. Bonjour Arnaud Bennett.
Bonjour.
Président du syndicat national des espaces de loisirs, d'attractions et culturels et président du parc d'attractions et animaliers du PAL dans l'Allier. Comment s'est déroulée cette semaine pour les parcs de loisirs, cette semaine riche en jours fériés?
Écoutez, cette semaine s'est déroulée à peu près conformément à nos prévisions. On avait prévu des très fortes fréquentations dans les parcs et je pense que ça a été, sans pouvoir consolider tous les chiffres, ça a été le cas, parfois trop d'ailleurs. Pour ça que sur les réseaux et sur les sites, on encourage les gens à privilégier sur des week-ends comme ça, plutôt par exemple le mercredi et le dimanche, que le jeudi de l'Ascension ou le vendredi. Malheureusement, les gens ne tiennent pas forcément compte. Donc on a eu des très fortes fréquentations sur certaines journées du week-end.
Et ce secteur, est-ce qu'il est toujours à la mode, les parcs d'attractions, chez les jeunes et les familles?
Oui, le secteur est un secteur qui se porte bien. C'est un des rares secteurs du tourisme et des secteurs en général économiques qui n'a subi aucune crise économique, jamais. C'est-à-dire que la seule crise qu'on ait connue, c'est la crise de la pandémie Covid. C'est un secteur qui répond parfaitement aux attentes des familles qui sont dans un quotidien qui est souvent, en tout cas parfois, anxiogène. Donc, ce secteur répond parfaitement à l'envie de dépaysement, de rupture par rapport au quotidien et l'envie de partager en famille ou entre amis des moments de sensations et d'émotions, toutes générations confondues, et ce secteur y répond parfaitement.
Quand on pense parc d'attractions, on pense Disneyland, on pense Astérix, Puy du Fou, Futuroscope, Vulcania. Est-ce que les parcs plus petits résistent?
Alors, les parcs plus petits résistent. Vous avez des parcs en région qui sont des très belles machines, qui font parfois entre 500 000 et 1 million de visiteurs. Aussi des tout petits sites qui fonctionnent extrêmement bien, avec des offres de grande qualité. Ce qui caractérise ce marché, c'est des niveaux d'investissement très importants, pourcentage du chiffre d'affaires. C'est un secteur qui investit autour de 15% de son chiffre d'affaires chaque année, avec parfois des parcs qui investissent même jusqu'à 30% de leur chiffre d'affaires chaque année. Donc des produits qui sont montés en qualité, qui sont des très bons rapports qualité-prix, très attractifs et qui dynamisent le secteur et maintiennent la demande à un niveau très élevé.
Merci beaucoup Arnaud Bennett. Et puis un nouvel épisode de Secret de dirigeant, idéal pour votre week-end prolongé. Céline Cajoulis a rencontré cette semaine Olivier Roussa, le directeur général du groupe Bouygues. Il raconte comment le choc de l'arrivée de Free a été vécu de l'intérieur il y a 12 ans, comment lui-même a dû procéder à des plans sociaux douloureux dans une boîte très familiale, et puis comment il a gagné la confiance de Martin Bouygues. Olivier Roussa raconte d'ailleurs comment celui-ci lui a fixé sa feuille de route.
On est dans mon bureau, je ne voulais pas montrer avant de démarrer, mais je vous montrerai sur un papier ma feuille de route. C'est un gros post-it, ouais.
Vous l'avez écrite quand, cette feuille de route?
À la suite d'un déjeuner que j'avais avec Martin en janvier 2016, dans lequel il me proposait de devenir directeur général délégué du groupe, et il m'a nommé en août. Il y a écrit « Connaître les principaux managers du groupe, ne pas faire à la place d'eux, comprendre les stratégies, quatrième ligne, empêcher les développements stupides. » C'est-à-dire être capable de comprendre la stratégie qui nous est proposée, être capable de la valider ou de l'amender en disant « Écoutez, là, il me semble qu'il y a un truc qui est peut-être un peu différent. » Et finalement, le travail que moi je réalise, c'est de pouvoir comprendre ce que font nos différents métiers pour les accompagner, les soutenir. Quand ils nous proposent une stratégie, on est derrière eux pour la soutenir totalement.
Voilà, ça a l'air facile finalement d'être un grand patron. Pour d'autres coulisses de ce métier assez particulier, avec donc Olivier Roussa, patron du groupe Bouygues, vous recherchez Secrets de dirigeants sur votre appli de podcast ou sur l'application Radio.